France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Demain s'ouvre un procès comme il n'en a jamais existé en France, à la mesure des faits qui seront examinés. Les attentats du 13 novembre ont entraîné la mort de 130 personnes à Paris et Saint-Denis, 1300 blessés. Des 10 membres des commandos présents ce soir-là, seul un est toujours en vie, Salah Abdeslam, qui sera dans le box des accusés. Les autres ont été tués le soir même ou 5 jours plus tard à Saint-Denis, où ont déclenché leur ceinture explosive. 20 accusés tout de même à ce procès, 14 présents. Les autres sont présumés morts pour la plupart en Syrie en particulier, 5 cadres de l'organisation État islamique notamment, car c'est aussi toute l'organisation qui a mené à ces attentats que les débats doivent éclairer. Alors qu'attendre de ce procès, ces 300 avocats, ces 8 mois d'audience, sa salle construite spécialement au palais de justice de l'île de la Cité? J'attends vos questions au 01 45 24 7000. Qu'attendez-vous, vous, de ces 8 mois? Et question à nos invités. Bonjour Aurélia Gilbert.
Bonjour, merci de me recevoir.
Rescapé du Bataclan, partie civile, merci de venir en studio. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Rédactrice en chef du 13-14 après de longues années au service police-justice et surtout, pour aujourd'hui, autrice du podcast de référence sur ces attentats, 13 novembre, l'enquête qu'on trouve toujours sur franceinter.fr et sur les plateformes. Et bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
Qui nous fera vivre avec Charlotte Piré ce procès tout au long des 8 mois. Aurélia Gilbert, où étiez-vous le 13 novembre?
Le 13 novembre, j'étais au Bataclan avec 3 amis. Je suis restée cachée quasiment jusqu'à l'assaut et l'intervention de la BRI. J'ai été libérée par la BRI vers minuit. J'ai malheureusement vu les gens tomber autour de moi. J'ai eu beaucoup de chance car je n'ai pas été blessée physiquement ce jour-là. Mais j'ai vu des gens blessés, j'ai vu des gens morts, j'ai vu ce qu'était la fosse, j'ai vu la barbarie et j'ai vu les auteurs de cet attentat.
Qu'est-ce qu'il en reste?
Il en reste des images difficiles, un chemin de reconstruction, quelque chose, comme je dis, qui fait certainement maintenant partie de ma vie, mais qui ne me définit pas et ne me définira pas. Sinon, ça voudrait dire qu'ils ont gagné et ils ne gagneront pas.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès?
J'attends qu'ils remettent la démocratie et l'état de droit là où ils ont voulu semer le chaos. Il y a aussi une volonté, l'attentat vous transforme en objet, ça vous chosifie, la volonté des terroristes.
Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire qu'un attentat, vous devenez une chose aux yeux des terroristes. Ils m'ont pas attaqué parce que je m'appelais Aurélia Gilbert, ils m'attaquaient au nom de la France. Mais c'est pas moi qui les attaquais, ni toutes les personnes qui ont été blessées ou qui sont mortes. Et vous devenez un objet, y compris même malheureusement dans la reconstruction, vous devenez un numéro pour l'administration. Même s'il y a des efforts de personnalisation. Et vous devenez ensuite ce que vous avez appelé les parties civiles, les victimes, qui représentent une masse. C'est pas vrai. Il y a autant de personnes, de chemins et de parcours que de victimes. Et le fait d'avoir ce procès qui revient, ça permet de redevenir sujet, de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie et de sa destinée en mettant le droit au milieu de notre histoire.
Et le fait de témoigner contribue à cela?
Alors témoigner, c'est une question que je me suis posée parce que je me demandais si j'étais plus légitime ou plus intéressante, certainement pas, que d'autres. Cette question de la légitimité, on est beaucoup à se la poser. Heureusement, mon avocat m'a dit qu'en fait, la multiplicité des angles et des histoires ne s'empilerait pas, mais permettrait de donner justement de l'humanité à ce qui est arrivé ce jour-là. Et j'espère permettre à la Cour aussi de comprendre tout ce qui est arrivé et l'impact que ça a eu dans nos vies.
Sarah Guibaudot, du point de vue de l'enquête, qu'est-ce qu'on attend de ce procès? Que reste-t-il au fond à apprendre de la préparation et de la commission des attentats?
Alors on a appris beaucoup de choses, l'enquête est gigantesque, on a dit 1 million de pages. Il y a forcément, comme dans toutes les enquêtes, des trous, des zones d'ombre que seuls les accusés peuvent combler, si tant est qu'ils le souhaitent. On sait que les préparatifs, la conception des attentats a commencé à peu près 1 an auparavant. On a fini par rassembler quelques pièces, donc c'est autour de petits les gros délinquants belges en lien avec des djihadistes en Syrie. Les gros délinquants, c'est par exemple les braqueurs, les frères El Bakraoui, qui sortent de prison fin 2014 et qui sont les cousins du commanditaire à Raqqa. Et puis les petits délinquants, c'est par exemple les frères Abdeslam qui fument des joints tout en regardant des vidéos de propagande djihadiste. Et dans ces petits groupes, il y en a qui vont faire un court séjour en Syrie comme Brahim Abdeslam, le grand frère, sans inquiéter tant que ça les services belges qui sont il est vrai, totalement débordés, qui ne les ont peut-être aussi pas pris au sérieux. Ces préparatifs, ils vont s'accélérer à l'été 2015. 2015. Il y a ces revenants qui traversent l'Europe avec la vague des migrants, il y a l'allocation des planques, les faux papiers, tout ça. Salah Abdeslam est accusé d'y avoir joué un rôle très important, mais par exemple, on ne sait pas exactement comment ils se sont procurés les armes, beaucoup d'armes quand même. Moi, je suis toujours interrogative de comment on peut se procurer autant d'armes, et ça, finalement, on ne sait pas très bien comment. Et puis, il y a toutes ces questions sur le 13 novembre lui-même, parce qu'il y avait des choses qui étaient conçues, préparées. Oui, on voulait attaquer une salle de concert. Bon, et puis, ils ont dû faire face à des imprévus et ils ont aussi improvisé. Et par exemple, il y a deux membres de la cellule qui, le 13 novembre, sont à l'aéroport d'Amsterdam. Ça peut pas être un hasard. On sait que le groupe État islamique voulait frapper plusieurs villes. Pourquoi il s'est rien passé, on sait pas. Il y a Salah Abdeslam donc qui ne s'est pas fait exploser dans Paris. Voilà, il y a encore quand même pas mal de questions.
Salah Abdeslam qui jusque-là n'a rien dit, n'a coopéré en aucun cas.
Non, alors il s'était exprimé très brièvement lors de son interpellation en Belgique. Ouais. Ensuite, il s'est muré dans le silence. Il est passé, semble-t-il, par plusieurs phases. Et puis, on l'a vu à son premier procès en Belgique pour une fusillade, où là, il avait pris du poids, il s'était laissé pousser une grosse barbe et il avait un discours plutôt radicalisé et revendicatif.
Aurélia Gilbert, comment vous avez préparé ce procès ?
Alors, on a tous un chemin de reconstruction avec des étapes qui sont différentes selon notre personnalité, notre entourage et puis les traumatismes qu'on a subis. Moi, très tôt, je me suis intéressée au fond de l'affaire, à ce que vient de raconter Sarah, à ce que me transmettait mon avocat.
Vous avez suivi l'enquête.
Moi, j'ai suivi l'enquête comme je le pouvais, à travers soit les médias, soit ce qui était rapporté au dossier. J'ai lu avec beaucoup d'attention le réquisitoire définitif et l'ordonnance de mise en accusation, qui est un très bon résumé du dossier.
350 pages.
Oui, et qui est très bien fait. Et le travail qu'on fait le parquet, le juge d'instruction, est quand même admirable. C'est quand même grâce à eux, aux équipes d'enquêteurs, qu'on a un procès et qu'on a quand même on n'a pas de second couteau. Il faut savoir que dans ce procès, on pourrait dire entre guillemets la chance par rapport à d'autres attentats.
Différence par rapport au procès d'il y a quelques mois.
Voilà, ou d'autres à venir. Oui. Je pense à Nice, où on a quand même pas que des seconds couteaux. Il n'y a pas que Salah Abdeslam. Mohamed Abrini a très certainement devait participer aux attentats. Comme le disait Sarah, il y a au moins 4 autres personnes qui devaient également être présente sur d'autres lieux d'attentat. Donc comment on s'y prépare ? On fait de son mieux. D'abord, on s'entoure très bien de son avocat, ce que je recommande à tout le monde. Moi, je suis dans une recherche de vérité judiciaire. Ici, il va s'agir de juger les faits qu'on reproche à des hommes. Et c'est pas le moment de juger les responsabilités d'un État et tout. Un procès d'assises, c'est pas du tout ça. Donc il faut le savoir, s'y préparer pour pas avoir de déception. Et connaître aussi quelle est la place des parties civiles au milieu de tout ça. Quel est notre rôle et quelle est notre place au milieu de tout ça.
Vous êtes allé voir la salle ?
Oui, j'ai visité la salle lors des visites qui ont été organisées en juillet. En fait, je vous cache pas que c'est beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir été tiré, enfin la chance, comme n'importe quel citoyen, d'avoir été tiré au sort il y a quelques années pour être juré dans un procès d'assises, on va dire normal. Donc ça m'a permis de me familiariser avec les process, les grandes lignes. Mais là, on est dans une dimension qui est complètement différente. La taille de la salle, l'immensité, le nombre d'accréditations presse, le nombre d'avocats, c'est hyper impressionnant.
Alors, on a connu un autre procès géant, mais pas de cette dimension. C'est celui, évidemment, Sophie Parmentier, qui jugeait les faits après Charlie, après l'hypercachère. Est-ce qu'on a tiré des enseignements de ce procès-là aussi, très largement médiatisé, qui a duré, puis il y a eu des rebondissements à cause du Covid, pas seulement, mais à cause du Covid, entre autres. On a tiré des enseignements de ce procès ?
Alors, ce qu'on peut dire pour ce procès des attentats de janvier, qui a duré 3 mois. Donc, en effet, c'est 3 fois moins que le temps que va durer le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui commence. Les enseignements qu'on a tirés, c'est que, est-ce qu'on a appris des choses ?
Oui,
certaines, par exemple, mais il y a aussi des grandes frustrations. Par exemple, à propos des armes dont parlait Sarah, eh bien, le trafiquant d'armes, par exemple, Claude Hermant, qui est venu à la barre en tant que témoin, il y avait une vraie incompréhension de la part des parties civiles qui se disaient, ces armes-là qui ont servi à tuer à Charlie Hebdo, à l'hypercachère, eh bien, finalement, il n'y a pas dans le box ce trafiquant, parce que donc l'enquête avait estimé qu'il n'était pas dans le box. Mais il y a eu des incompréhensions, il y a eu aussi des moments assez forts, moi je dirais, de rencontres entre les parties civiles qui, pour beaucoup, n'attendaient pas vraiment des accusés au départ. Et puis certaines sont venues, finalement, chaque jour. Et à un moment donné, quand certains accusés se sont levés et ont semblé émus par les témoignages très forts, très bouleversants des parties civiles à la barre, eh ben, on a eu l'impression que quelque chose s'est passé. Je crois que ça a pu apporter de l'aide à certaines parties civiles, même si pour d'autres, eh bien, Elle considérait que certains accusés étaient enfermés dans leurs mensonges et que ce malgré tout ce procès était insatisfaisant.
Question d'Arnaud au standard.
Oui, allô.
Bonjour Arnaud, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, je vais être très bref parce que vous avez beaucoup d'intervenants. Le procès va être filmé, est-ce qu'on peut envisager qu'il soit diffusé dans les écoles assez rapidement, comme l'avait été le procès Claude Barbie, pour que les gens comprennent et que ce ne soit pas du voyeurisme et qu'on puisse vraiment analyser ce qu'a été cette barbarie.
Sophie.
Alors, le procès est filmé, mais pour l'histoire, pour les archives. Donc, en tout cas, c'est pas du tout envisageable de le montrer dans les écoles pour l'instant. Il y aura une web radio, ça c'est totalement inédit, qui permettra aux parties civiles, 1800 parties civiles du procès, de suivre ces audiences, parce qu'évidemment, beaucoup des parties civiles ne pourront pas assister au procès pendant 9
civiles,
mois.
Je traduis un peu rapidement, victimes.
Oui, voilà. Voilà, ouais. Victimes, rescapées, ouais. Proches de victimes, reconnues victimes par la justice. Mais non, pour répondre à cette question, il n'est pas envisagé de montrer les images de ce procès dans les écoles tout de suite.
Question ponctuelle, vous qui allez couvrir, Sophie, ce procès, pourquoi répéter encore et encore les noms des terroristes, nous dit cet auditeur. Cela vous rend complice de leur recherche de notoriété, peut susciter des vocations. J'imagine que c'est une question à laquelle vous pensez.
Alors, c'est vrai que depuis les attentats de 2015, c'est une question qu'on s'est souvent posée ici à France Inter. Parfois, les noms des terroristes sont donnés dès le départ dans l'enquête, par exemple par le procureur antiterroriste ou par des hommes politiques, des ministres de l'Intérieur. À partir du moment où il est rendu public, c'est difficile pour nous, journalistes, de le taire. Par ailleurs, en fait, pour tous les accusés, en général, on donne les noms. Alors, est-ce que c'est leur donner une tribune, les rendre célèbres ? Eh bien, c'est ce qu'on nous reproche. Et c'est vrai que ça peut exister. Par exemple, Mohamed Merah, les attentats de 2012, Mohamed Merah est devenu une icône pour beaucoup de djihadistes qui sont ensuite partis en Syrie. C'est une question qui se pose, mais en tout cas pour ces procès publics, eh bien, on donne le nom des terroristes là qui vont être jugés.
Et ça répond peut-être à la remarque, Jean-François Ricard dit on juge des accusés pour lesquels il y a des charges, ce qui correspond à ce que nous disait Aurélia Gilbert. On juge aussi des cadres de l'organisation État islamique, Sarah, en leur absence. Quel sens ça a ?
Alors, effectivement, on peut se poser la question parce qu'ils sont en fait probablement morts. Je vais prendre le principal, Oussama Attar, c'est le commanditaire identifié dans l'enquête. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. En fait, il a très probablement été tué par une frappe de la coalition occidentale en Syrie en 2016 ou 2017. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais on en a
2017.
Pardon, novembre 2017.
Merci Aurélia. On n'en a pas la preuve formelle, c'est-à-dire que la justice n'a pas une trace d'ADN ou quelque chose, et donc c'est un peu une précaution, si vous voulez, parce qu'on a vu, c'est arrivé, des djihadistes qui faisaient croire à leur mort et puis qui réapparaissaient à Baoud l'a fait, par exemple. Hein. Donc, on va dire que c'est une précaution. En tout cas, ça ne changera pas tellement le déroulé du procès.
Mais ça permet d'avoir le puzzle complet, peut-être, de...
Alors, c'est pas ça le raisonnement, mais oui, de toute façon, ça va permettre aussi d'examiner le rôle de ce que les magistrats appellent la cellule OPEX de l'État islamique, c'est-à-dire de cette espèce de bureau des attentats, ça c'est la formule journalistique, ces cadres qui étaient à Raqqa, chargés de planifier des attaques en Europe, et au sein de cette cellule, il y avait aussi des Français et des Belges.
Et Aurélia Gilbert, vous êtes ici aujourd'hui, vous avez participé au doc sur France Télévisions, vous allez suivre le procès pour Mediapart. Quel sens ça a pour vous de communiquer comme ça avec les médias et donc le grand public?
Écoutez, au début, moi, j'ai voulu me préserver de la médiatisation, avec tout le respect que je dois aux journalistes que je vois autour de la table et que j'apprécie beaucoup.
Là, vous avez deux très bonnes.
pour des raisons aussi de sécurité. Il faut pas oublier que cette période aussi de procès est une période de risque de surattentat, on s'en cache pas. Mais j'ai une vraie volonté pédagogique et en parallèle, je travaille avec l'Association française des victimes du terrorisme, où je commence, comme beaucoup d'autres, à faire des interventions, soit en milieu scolaire, soit auprès de jeunes en difficulté, et je l'espère plus tard aussi en milieu pénitentiaire. L'idée, c'est de pouvoir porter la parole des victimes, mais pas de s'enfermer dans son rôle de victime. L'idée, c'est de pouvoir expliquer quelles sont nos attentes, quel est le rôle d'un procès, quel est le rôle de la justice, ce qu'on a vécu, lutter contre le complotisme, essayer de ramener aussi de l'humain dedans, et faire en sorte, auprès de toutes ces différentes générations et des gens qui nous écoutent, que c'est pas manichéen, qu'un procès contre le terrorisme, c'est compliqué, que cette opération-là était particulièrement complexe, qu'il n'y a pas que Salah Abdeslam qui est un méchant dans la bande. Comme je le disais, voilà, il y a beaucoup d'enjeux et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Merci à toutes les trois d'être venues dans ce studio. On suivra évidemment ce procès dès demain avec vous, Sophie, et avec Charlotte Piret. On fera un point régulièrement, tous les jours si nécessaire, et en tout cas un bilan chaque semaine de la tenue des débats. 13h45.